Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de Talk Show, le magazine des médias et de la télévision. Heureux de vous retrouver après ces deux mois d'absence dus au coronavirus. Notre invité aujourd'hui s'appelle Pascal Henry. Rien à voir avec Thierry Henry, le journaliste et Thierry Henry qui est le footballeur bien connu, pour un rendez-vous qui aura lieu ce soir à 23h05 dans Pièce à conviction, avec le thème Scandale à Monaco, les révélations d'un juge. Bonjour Pascal Henry.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de cette enquête, de ce documentaire. Comment vous qualifiez ?
Oui, oui, c'est une enquête documentaire, ça c'est certain. C'est en fait c'est presque un an d'investigation, et c'est aussi le résultat d'un premier film que j'avais réalisé il y a 2 ans, où je m'étais intéressé à une bataille juridique très importante entre un milliardaire russe qui s'appelle Dimitri Ribolovlev, oui, et un marchand d'art suisse qui s'appelle Yves Bouvier. Et de là, il y a eu une procédure à Monaco et il y a eu un juge qui s'appelle Édouard Levrault qui a mené l'enquête. Et son enquête a débouché sur une mise en cause de toutes les plus hautes autorités de Monaco qui avaient pris fait et cause, ou semblent avoir pris fait et cause, pour le milliardaire russe.
On va en parler dans un instant plus en détail. Tout d'abord, vous dites que cette interview du juge Levrault est une interview exceptionnelle. Qui a contacté l'autre ? Comment ça s'est fait ?
Alors, je vous évoquais le fait que j'avais réalisé un film il y a deux ans sur cette affaire, et donc j'avais vu qu'il y avait ce juge qui menait son enquête tambour battant, mais j'ai bien fait attention de ne pas me rapprocher de lui pour pas que ça compromette son travail d'enquête. Mais au moment où il a été évincé de Monaco, c'est-à-dire en juin 2019, là, j'ai pris contact avec lui, il avait vu mon film précédent, donc il y avait une sorte de rapport de confiance qui était établi. Et donc, on a pu se parler assez facilement, même si il était très prudent au départ.
Alors, un juge d'instruction, en général, ça ne parle pas des affaires qu'il a en cours ou avant. Comment vous avez fait travailler avec lui ? C'est-à-dire que ça a été des rendez-vous réguliers ou ça a été fait en une fois ?
Alors, ça s'est déroulé sur 6 mois, dont 2 longues interviews avant le confinement. La première, c'était une rencontre, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Il est aujourd'hui magistrat à Nice, et donc je suis venu de Paris pour le rencontrer. Il a fallu discuter, trouver des accords justement de confidentialité, de pas aller sur certains terrains qui mettaient en cause son travail de magistrat et les enquêtes judiciaires en cours. Hein. C'était très important, mais à la fois j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Est-ce que lui avait vécu en tant qu'homme,
hein. L'affaire Ribolovlev, c'est comme ça qu'elle elle se nomme. Oui. En fait, elle est arrivée un peu par hasard sur le bureau du juge Levrault. C'est par rapport à une autre affaire et il a fait
Voilà. Alors, je vais vous raconter ça en 2 mots. C'est un coup de théâtre comme on en a très rarement en justice, mais qui c'est de l'ordre de la fiction. C'est-à-dire que pour une histoire d'atteinte à la vie privée, un litige entre l'avocate du milliardaire russe et une autre personne, le juge a demandé. Il y avait un enregistrement litigieux, un enregistrement réalisé avec un téléphone portable. À ce téléphone portable et il l'a fait expertiser pour conforter l'accusation. Et normalement, ce téléphone était totalement nettoyé par les services, je dirais, privés du milliardaire russe. Mais en fait, curieusement, c'est le cloud qui les a trahis. C'est-à-dire qu'au moment où l'expert a demandé l'auscultation du téléphone, ils ont compris que tout était revenu dedans et on a l'ensemble des SMS, des échanges donc de l'avocate du milliardaire russe avec l'ensemble des personnalités les plus importantes de la principauté qui apparaissent avec ces SMS.
Alors il y a d'autres juges et d'autres personnes qui interviennent pendant ce reportage, notamment l'ancien procureur. Ça a été facile à eux aussi de parler devant votre caméra ou c'était plus compliqué qu'avec le juge Levrault?
Alors, pour ce qui concerne Jacques Doremieux, il était procureur général donc de Monaco de 2015 à 2018. Il était dans une situation un peu particulière parce que il est parti au bout de 3 ans. Et quand je l'ai contacté, j'ai senti qu'il y avait, il en avait, il voulait parler parce que ça avait été une expérience un peu traumatisante. Hein, les rapports avec Monaco, la révélation à travers les SMS du lien du ministre de la Justice avec avec le milliardaire russe, l'a complètement déstabilisé au sens où il s'est senti trahi. Et il le dit d'ailleurs dans le film. Hein, il s'est trouvé pris à revers finalement. Il avait confiance dans son ministre de la Justice, dans les institutions monégasques, et tout d'un coup, il a compris que en fait, tous étaient ou semblaient s'être mis au service du milliardaire russe contre contre la justice et contre l'équilibre d'une enquête. Quoi.
Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Oh, et si j'étais riche, je bâtirai un vrai palais montant jusqu'au ciel sur la place du marché. Des murs plantés bien droits sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Et plein ma cour des oies, des coqs et des poules, toute la ville m'envierait, car ça piaillerait, ça caqueterait. Et chaque couac sonnerait comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Si j'étais riche, ma gauve, belle comme une bourgeoise avec un double menton. Nous faisons manger tout ce qui lui plaît. Je la vois se pavanant avec sa robe à traîne. Oh mon Dieu, quelle dignité! Même quand elle dispute les valets.
Scandale à Monaco, les révélations d'un juge ce soir à 23h05 sur France 3 dans le cadre de l'émission Pièce à conviction. Pascal Harry, dites-moi, ces révélations, c'est financier, politique, moral?
Alors, ça commence par une affaire financière, une énorme affaire financière, puisque au tout départ, il y avait eu une transaction entre un milliardaire russe et un marchand d'art suisse, et qui portait sur 2 milliards de dollars sur des tableaux. Mais au-delà de ça, ce qui est apparu au cours de l'enquête menée par le juge Édouard Levrault, c'est que, en fait, le milliardaire russe qui est installé à Monaco depuis 2011, qui est propriétaire de l'AS Monaco, le club de foot, qui a le plus bel appartement de Monaco, ben ce monsieur a pour des problèmes personnels, enfin des relations personnelles, a demandé aux plus hautes autorités monégasques de se mettre à son service. Et elles se sont toutes mises à son service, la justice, la police et le pouvoir politique. Hein. Alors la justice, oui.
Oui, alors il y a cette histoire-là de tableau, mais aussi une histoire avec la Croix-Rouge. Il y a un don qui aurait
oui.
été... Vous pouvez nous en parler un peu, parce que c'est intéressant.
Bien sûr.
Oui. Alors, on vous écoute.
Alors l'investigation du juge, elle portait sur en particulier sur le ministre de la Justice qui s'appelle Philippe Narmino. Ce monsieur était très proche du milliardaire russe puisqu'il passait des week-ends avec lui dans un chalet en Suisse, dans une station très huppée qui s'appelle Gstaad. Et il était très, très, très intime, je dirais, avec le milliardaire russe. Perquisition est menée dans les bureaux du ministre, perquisition à son domicile par le juge Édouard Levrault. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le coffre-fort à son domicile? Une carte de crédit à l'entête de la Croix-Rouge. Il faut savoir que Philippe Narmino est vice-président de la Croix-Rouge et le juge a voulu en savoir un petit peu plus, se poser des questions. Finalement, cette carte, pourquoi elle était dans un coffre-fort? Et qu'est-ce qu'il trouve? Il va demander l'ensemble des comptes de la Croix-Rouge et il apparaît que M. Ribolovlev a fait un versement en 2015 de 100 000 euros sur un don de 100 000 euros à la Croix-Rouge alors qu'il n'avait jamais donné d'argent auparavant et qu'après il ne va pas en donner non plus. Mais 2015, c'est l'année où il va y avoir un litige très important entre le milliardaire russe et ce marchand de tableaux. Donc le juge se dit, tiens, c'est bizarre, il y a 100 000 euros qui sont versés sur le compte de la Croix-Rouge, dont Philippe Narmino est vice-président, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Et il a commencé à gratter ça.
Alors oui. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut dire à nos auditeurs que la Croix-Rouge à Monaco est une grosse institution, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de people qui participent. Alors, ce qui est important, et ce qu'on veut savoir pendant ces documentaires, c'est jusqu'à où, à quel niveau de gouvernance cet argent a été dépensé.
Alors, ce qu'on voit, c'est que la Croix-Rouge, c'est l'institution la plus glamour de Monaco, puisque le gala de la Croix-Rouge, qui a lieu en général à l'été, durant l'été, est vraiment, il attire les stars du monde entier, les milliardaires de la planète, parce que il est de bon ton de faire un don à la Croix-Rouge monégasque, il y a un bal, etc. La question qui se posait, c'est-à-dire que cette institution aussi célèbre que la Croix-Rouge de Monaco, est-ce qu'elle a pu servir comme véhicule ou en tout cas par canal pour donner des prébendes ou en tout cas rétribuer de façon occulte le ministre de la Justice? C'est en tout cas l'interrogation qu'a eu le juge puisqu'il a demandé l'ensemble des comptes pour essayer de comprendre la circulation de l'argent à l'intérieur de cette fameuse association caritative.
Est-ce que, à votre avis, on en parle dans votre documentaire, on était au courant de ce qui se passait en haut lieu, c'est-à-dire au niveau du palais?
Alors, disons que il faut savoir que, là je reviens à la Croix-Rouge, c'est que Philippe Narmino, ministre de la Justice, est vice-président de la Croix-Rouge. Mais le président de la Croix-Rouge, ce n'est autre que le prince Albert II. Hein, c'est lui. Donc, normalement, il aurait dû savoir. Alors, est-ce qu'il s'en occupe ou il est président qu'à titre honorifique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les interrogations auraient pu être... les questions auraient pu être posées.
Hein. À votre avis?
Alors, à mon avis, il ne le savait pas. Hein, parce que Albert voyage beaucoup, il est président de nombreuses associations caritatives, celle de la Croix-Rouge monégasque fait partie d'une des nombreuses associations dont il est le président et ce côté caritatif est le plus important. Lui, il n'a pas besoin du tout d'argent, il est richissime, donc ça se pose pas là-dessus. Et qu'il ait pu y avoir des soupçons, je pense que lui n'est au-delà de tout ça. Enfin, je veux dire que ça ne le concerne pas directement. Peut-être l'entourage du prince a pu lui poser la question, mais en tout cas, le prince, je ne pense pas du tout qu'il soit au courant.
Scandale à Monaco, les révélations d'un juge, ce sera donc ce soir à 23h05 dans Pièce à conviction, à Pièce à conviction sur France 3. Finalement, la fin de l'histoire, c'est que le juge qui a dérangé a été remercié.
Alors, tout à fait. Il a, en juin 2019, alors qu'il était renouvelé, on lui a dit, ben non, finalement, vous partez. Les personnes.
Mais c'est légal, ça, de changer de juge.
Oui, alors c'est légal, c'est vrai. Ça a été, c'est fait légalement, mais ils ont fait une faute, une insulte, je dirais, au magistrat français, au sens où ils ont confirmé jusqu'au dernier moment qu'il était renouvelé, et du jour au lendemain, on lui a dit, monsieur, vous partez, et la France n'a rien pu faire.
Vous pensez que il a été remercié à cause de ces révélations, en tout cas de ce qu'il avait enquêté ?
Absolument. Il n'y a même quasiment pas de doute, parce qu'on voit que rien ne pouvait lui être reproché d'un point de vue déontologique, d'un point de vue comportemental. Et il n'a fait que cette enquête, mais cette enquête se rapprochait tout proche du palais. Et c'est ça qui les a fait paniquer, d'une certaine façon, et qu'il fallait écarter le juge avant que le juge ne convoque le prince.
Du coup, cette affaire, elle en est où ? Elle est en stand-by ? Il n'y a pas de juge qui s'en occupe ?
Alors, un juge a repris le dossier depuis, j'ai vérifié ce matin, depuis l'été 2019, pas un acte de procédure n'a été lancé par le nouveau juge d'instruction. Comme si on voulait remettre une chape de plomb sur cette enquête, qui pourtant mettait en cause très directement le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le patron de la police judiciaire.
Alors, ce scandale à Monaco avec Rybolovlev, on voulait dire un mot sur ce personnage. Vous pouvez nous le présenter en deux mots, parce qu'il est quand même dans le centre de cette affaire.
Tout à fait. C'est même le personnage incontournable à Monaco, puisqu'il est propriétaire de l'AS Monaco depuis 2011. C'est un monsieur qui a fait fortune dans les années 90, au moment où la privatisation des entreprises russes, et il a gagné énormément d'argent sur le phosphate. Et il est devenu, il s'est retrouvé à la tête de près de un peu moins de 10 milliards de dollars, et il s'est d'abord installé en Suisse, puis il a jeté son dévolu, entre guillemets, sur Monaco, parce qu'il avait des petits problèmes en Suisse sa femme. Et donc, il s'est installé à Monaco et il pensait devenir le premier citoyen monégasque. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'a jamais reçu le passeport monégasque, mais il a investi très largement à Monaco. Le prince est venu très souvent à des fêtes que lançait le milliardaire russe. Et donc, il y avait une vraie proximité entre le prince et ce milliardaire.
Alors,
Oui.
Pascal Henry, on va arriver au terme de notre émission. On parle du juge Levrault. Vous avez dit qu'il a été, on va dire, changé à Nice. Est-ce que vous sentez qu'il a, il en a encore dans le vent ? C'est-à-dire qu'il est un peu déçu ou c'est la vie, en fait ?
Non, je pense que sentiment. Alors, c'est un monsieur qui est très combatif et très travailleur. Je vois, moi, quand j'ai le contact, il est sans arrêt plongé dans ses dossiers, etc. Je pense que ce n'est qu'une étape dans une carrière qui, normalement, devrait se développer de façon assez positive de ce point de vue-là. Parce qu'il est un peu intelligent et qui a cette jeunesse, quoi. Et cette
quel âge il a ? Parce qu'il a l'air très jeune comme garçon.
Oui, alors j'ai pas son âge exact, mais il a une quarantaine, quoi, ouais. On va dire. Hein. Et il est. Mais ce qu'il a, c'est qu'il a une sinon une rage, mais en tout cas un allant et une force de travail très importante et un souci de faire triompher la vérité ou en tout cas de démasquer les malfaisants.
Votre reportage, il a une importance ? Vous pensez que ça va relancer l'affaire ou c'est simplement un travail de journaliste que vous avez fait ?
Je pense que ça sera un point d'orgue dans l'histoire monégasque, parce que très peu de gens ont pu ou voulu réaliser un documentaire pour raconter ce qui se passe à Monaco. Et là, on a tout d'un coup comme un effet de microscope où on voit une société fonctionner avec les liens, les conflits d'intérêts, le fonctionnement de chaque institution et la mise en cause du palais ou du fonctionnement de la police, qui est assez assez sévère dans mon documentaire, va, à mon avis, bouleverser le fonctionnement de cette institution qui va devoir se réformer parce qu'elle est quand même très... elle pose des problèmes de fonctionnement au point même que l'Europe, le Conseil de l'Europe, a critiqué le fonctionnement des institutions monégasques, judiciaires et policières.
Alors, une question que je voulais poser, parce que l'info de ce reportage a été parue très tard dans les services de presse. Oui. C'est dû à quoi ? Il y a une explication de votre part ?
Alors non, c'est-à-dire que on a fini tard, hein, ça a pris du temps parce qu'il y a eu l'effet confinement, ouais. Et que le montage du film a été compliqué,
voilà.
Parce que ça se faisait à distance, et qu'on a pu faire malgré tout un dernier tournage, celui qui ouvre le film avec le juge Édouard Levrault quand on est devant le palais de justice, c'est postérieur au déconfinement, c'est-à-dire après le 11 ouais. mai, mais c'était très compliqué, donc on a été très très pris par le temps, et c'était assez difficile d'être rentré dans les délais impartis, j'allais dire, pour arriver à réaliser ce film, mais bon, on est arrivé, mais ça n'a pas été simple.
Scandale à Monaco, les révélations d'un juge, documentaire de Pascal Henry, suivi évidemment comme à chaque fois d'un plateau avec Virginia Sacchi. Vous serez sur le plateau, je crois, non ?
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et le juge aussi.
Ah, le juge aussi, voilà. Donc, ce sera ce soir à 23h05 sur France 3. Des projets à présent, Pascal Henry, pour vous ?
Oh ben déjà, je vais un peu souffler.
C'est déjà pas mal.
Ça a été un peu stressant quand même. Hein. Voilà. Mais enfin, bon, je suis très content du film et qu'on ait pu aller jusqu'au bout.
Et vous avez des projets dans les jours ou les semaines à venir ? Ou les mois ?
Oui, mais ça sera, pour l'instant, je les garde encore pour moi. On a bien un projet d'ouvrage avec le juge pour faire un portrait écrit d'Edouard Levrault. Mais on en est encore à des discussions. Il faut déjà que le film soit diffusé, qu'on voit les conséquences, enfin, ou les répercussions, on va dire, de cette diffusion, et après, on agira.
Voilà. Merci, Pascal Henry, d'avoir accepté notre invitation, et on invite les gens, évidemment, à voir votre enquête ce soir, 23h05 sur France 3. Merci à vous.
Merci à vous.